Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, c'est comme Jailan, Nouri Bilge Jailan, avec Frédéric Mercier et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Il fête aujourd'hui même, ce 26 janvier, ses 60 ans. En à peine 15 ans, depuis la reconnaissance internationale que lui a valu son grand prix au Festival de Cannes en 2003 pour Uzak, jusqu'à la Palme d'Or, reçue au même festival des mains de Jane Campion en 2014 pour Winter Sleep, et même si son dernier film, pourtant sans doute son plus abouti et son plus beau, Le Poirier Sauvage, en est revenu bredouille, une fois n'est pas coutume, le Turc Nouri Bilge Ceylan s'est imposé comme un des plus grands cinéastes vivants, héritier de Tarkovsky, Ozu, Bresson, Kiarostami et Bergman. Il ne s'est jamais remis de la découverte à 16 ans du silence, baigné de littérature russe en général et de Dostoïevski et Tchekhov en particulier, peintre du complexe, de l'équivoque et de l'ambigu. Ses détracteurs lui reprochent certes son exigence perfectionniste pour le cadrage et la lumière, son pessimisme qu'il qualifie volontiers de misanthropie et surtout la lenteur, la longueur jugée excessive de ses films. Or, il faut bien cette expérience du temps, souvent du temps réel, pour dérouler dans ses contes moraux, philosophiques, voire métaphysiques, cette investigation profonde des recoins les plus obscurs de l'âme humaine, de ses tourments quasi météorologiques. La sortie d'un coffret Blu-ray regroupant l'intégrale de ses films, de Casaba au Poirier Sauvage, nous offre dans Plan Large l'occasion de nous replonger dans cette œuvre au lyrisme mélancolique que nourrit Bilge Ceylan. Conçoit, je le cite, comme des lettres que l'on envoie dans l'obscurité. Pour nous éclairer, armé de sa lampe à huile, un des meilleurs connaisseurs de son œuvre, le critique Frédéric Mercier, co-auteur avec Pierre Murat des bonus de cette édition Blu-ray, et Ntebin, qui en fin d'émission nous évoquera la figure inclassable et éclectique d'Alberto Lattuada, cinéaste italien honoré à partir de la semaine prochaine par une rétrospective à la Cinémathèque française et par la ressortie d'un de ses films les plus férocement drôle, venez donc prendre le café chez nous. Mais pour l'heure, retour aux origines dans un petit village d'Anatolie.
Mezarlıktaki erik yenir mi?
Sen yeme istemiyorsan. Mezarın üstüne basıyorsun.
Ne yazıyor burada?
Ha? Ne yazıyorsa yazıyor. Tanıyacak mısın sanki?
Kremi sürünce daha iyi okunuyor.
Şşt.
On est dans les arbres, des enfants mangent des prunes sur une pierre tombale, un âne apparaît, on l'a entendu faire brum, il a des mouches plein les yeux, il y aurait une tortue que un petit garçon va retourner sur son dos. C'est Casaba, le village, le premier long métrage d'un photographe qui a presque 40 ans à cette époque, né en 1997, le premier volet d'une trilogie qu'on appellera, alors selon les cas, trilogie de la famille, trilogie provinciale de Nouri Bilge Ceylan. C'est un film qui est tourné en toute petite équipe, ils sont deux pour faire ce film, il est en noir et blanc, et alors il faut toujours se méfier un peu des lectures rétrospectives de son œuvre, Frédéric Mercier, mais beaucoup, beaucoup de l'œuvre de Ceylan est déjà là, dans Casaba.
Oui, il y a beaucoup à la fois, effectivement, dans les thèmes, et déjà, on va dire, dans la forme. Ça veut dire que On a évidemment ce pan quasi autobiographique, puisque c'est l'histoire d'un petit village, là où Ceylan lui-même a grandi. Enfin, il a grandi dans un petit village alors qu'il est né à Istanbul. Et il y a toutes ces figures familiales qui ont coopéré pour faire le film, pour participer au film. Donc on est vraiment dans quelque chose d'autobiographique. Et c'est quelque chose, je crois, qui va poursuivre dans bon nombre de ses films. Il y aura toujours ce rapport à sa propre histoire qui sera dans son œuvre. Et il y a effectivement déjà, à travers ces figures, des formes qui se mettent en place. On peut dire, en prenant quasiment une des premières séquences du film, que c'est le film où il fait ses classes, puisque les premières séquences se passent dans une salle de classe avec des enfants. Et il y a, on va dire, ce rapport à la fois donc à la famille, ce rapport à la ruralité. Et ce rapport, on va dire, aux éléments, au cosmos, au monde qui nous entoure, comme on l'a pu l'entendre dans l'extrait.
Alors cette salle de classe est une classe où un professeur va délivrer un discours très normatif. Hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Ntebin, il va expliquer qu'il faut obéir à la loi, qu'elle est là pour unir les hommes. Et puis il y a une plume. Il y a une plume qui vole. Et le cinéaste, évidemment, suit beaucoup plus la plume qui vole que le discours du maître.
Mais c'est ce qui est extraordinaire chez lui, c'est que... Ceylan, pour moi, c'est l'expressionnisme absolu, c'est-à-dire que chaque chose, chaque composante du cadre, de l'écran, de la bande-son, est le reflet de quelque chose qui se passe à l'intérieur des personnages. Et alors que, et tout ça sous des dehors tout à fait réalistes, enfin presque comme s'il avait posé sa caméra là, ou comme s'il avait capté, comme il était photographe avant, cette chose-là. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que, vous avez parlé de cosmos tout à l'heure, ces personnages sont au centre d'un cosmos qui forme un cinéma qui s'enrichit de film en film. Mais c'est toujours le même monde. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. C'est un univers qu'on ne cesse de réexplorer, de réinventer, de renouveler parfois, mais...
Et qu'on prend le temps de regarder, surtout, parce qu'il y a cette séquence extrêmement longue et formidable de discussion dans la nuit, pique-nique nocturne dans une clairière. Alors ici, on est plutôt, on le verra sur les films, ça va évoluer, on est plutôt, il me semble, du point de vue de l'enfant. C'est-à-dire qu'on est d'un point de vue d'un enfant qui regarde des adultes parler, qui se laisse bercer par leur conversation, qu'il ne comprend pas forcément, qui va rêver à un moment. Il y a aussi des scènes oniriques chez Nuri Bilge Ceylan, et il y a cette scène, l'enfant a retourné cette tortue sur le dos, donc la tortue est fichue, on le sait, une tortue ne peut pas se retourner, et il va l'associer à sa mère dans son rêve. Ce sont des moments comme ça, par incise, dans le cinéma de Nuri Bilge Ceylan, qui nous prennent toujours, presque par surprise.
Oui, des flashs, ou moi je dirais des moments, quelque chose qui saisit en fait dans son cinéma que je ne connaissais pas trop, c'est ce moment de l'engourdissement. Engourdissement physique et engourdissement de l'esprit. Ce moment où on est entre chien et loup, on bascule dans le rêve, mais on n'est pas encore complètement dans le rêve.
Ouais, c'est l'état qu'on appelle hypnagogique, c'est juste avant l'endormissement, et c'est l'état dans lequel il place le spectateur aussi.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire à ce moment-là, cet état où nous-mêmes nous sommes attentifs, on est attentif soudain aux éléments et à la façon dont les éléments vont interagir avec ce cosmos. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose que disait Bean. Vous parliez même de la place de son cinéma et des films dans ce rapport au cosmos. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les films se font suite les uns aux autres. Il y a un motif qui va être peint, qui va être à un moment donné inventé, qui va être mis à l'intérieur d'un des films. Et le film suivant va prendre en charge ce motif pour l'explorer, comme avec un microscope ou une loupe, pour l'explorer plus attentivement. Et c'est vrai jusqu'au Poirier sauvage, par exemple Winter Sleep. Anatoly se termine avec un enfant qui jette une pierre. Ce sera le début de Winter Sleep. Et il y a en fait cette idée du cosmos, je crois, elle fait œuvre. Enfin, je veux dire, cette œuvre a ce rapport à une globalité dont vous parliez.
Et le retour sur motif se fait parfois de manière extrêmement explicite, comme en témoignera le film qui suit immédiatement.
Başla.
Böyle işte. Şimdi de rehberlikle geçiniyorum.
Böyle işte. Şimdi de rehberlikle geçiniyorum.
Ne olacak sanki? Olsun var.
Ne olacak sanki? Olsun var.
Ama işte ölmek de istemiyorum.
Ama işte ölmek de istemiyorum.
Allah izin verirse en az bir 20 yıl daha yaşamak istiyorum.
Allah izin verirse en az daha şöyle bir 20 yıl daha yaşamak istiyorum.
Yağmur mu yağıyor?
He? Yağmur mu? Ha? Yağmıyor galiba.
Dur.
Olmadı.
Şimdi değiştireyim mi?
Değiştir. Baba gene kameraya baktın. Sufle aralarında çok duruyorsun. Yağmurun yağıp yağmadığına bakar, nasıl bakarsın sen? Böyle mi olur bakış?
Ya bak duruyor işte. Daha nasıl bakacağız?
Bu ışığı biz bana neden bu kadar çok verdin?
Tamam usta.
Şimdi baştan alıyoruz. Hani sen şu salkımı salla. Sen de tut bakayım. Sabit tut ha. Hazır mıyız?
Hazır usta. Tamam. Başlayayım mı?
Başla.
Ce bruit qu'on entend, c'est bien le bruit d'une caméra. On est dans Nuages de mai et ce film est quasiment le making-of du film précédent, puisque c'était une scène de tournage dans cette fameuse clairière. Un cinéaste dirige son père, son cousin, qui est Safet, qu'on voyait déjà dans le film précédent, va lui souffler les répliques. Et puis le cinéaste reproche à son père de pas très bien jouer, de regarder la caméra, de pas faire les bons gestes. On est quasiment, Ntebin, dans le même geste que faisait Kéa Rostami quand après Où est la maison de mon ami, il retourne pour faire La vie continue, et puis il y retourne encore une troisième fois pour faire Au travers des oliviers. Il dira quand il présentera le film Nuri Bilge Ceylan à Angers, c'était en 2001, quand j'ai vu la vidéo qu'on avait faite sur mon travail, j'ai été surpris par ma méchanceté. J'ai voulu rendre justice à mon père, à ma mère, à mes proches que j'avais mis en scène et malmené, parce qu'on l'a pas précisé, mais le père est joué par le père de Nuri Bilge Ceylan, la mère par sa mère, son cousin par son cousin, et tout cela fait un film extrêmement imbriqué, puisque en revanche, Ceylan ne joue pas son propre rôle, c'est un de ses doubles de cinéma qu'on retrouvera plus tard, Muzaffer Özdemir, qui va prendre en charge le rôle du cinéaste qui est pas très tendre avec sa famille.
Oui, mais ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'on a l'impression que, comme beaucoup de cinéastes ou de jeunes cinéastes, il ne filme que son petit monde et que ce qu'il connaît, et puis parce qu'il a très peu de moyens, etc. Mais en fait, ce qu'on a vu en voyant sa carrière se développer, c'est qu'il arrive, en fait, il arrive au cosmos à partir de la plus petite chose. Et il intègre tous les éléments à son monde. Souvent les animaux, les plantes, enfin bon, le poirier. Il y a très souvent des animaux dans ce film. Les personnages. C'est un extraordinaire directeur d'acteurs. Non professionnel ou professionnel.
Direction très particulière, direction très minimaliste. Pour lui, il faut avoir un jeu le plus neutre possible. Là, c'est une des leçons de Bresson. Enfin, il s'oppose au jeu turc qu'on voit dans les films turcs. Nous ne voyons pas, mais enfin, qui est la majorité des films turcs, qui est beaucoup plus emphatique, on dira.
Oui, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'il découvre le jouet cinéma de film en film. Et quand il s'aperçoit, par exemple, qu'il peut avoir un chef opérateur et qui c'est pas à lui forcément de cadrer, de faire sa lumière comme dans ses premiers films, qu'il n'est pas obligé de tourner un appartement chez lui, que les personnages sont pas forcément ceux de sa famille, il va agrandir son monde, mais c'est toujours son monde. C'est ça qui est extraordinaire. Après, il va y avoir son succès en France. Il va découvrir la richesse de la bande son, du mixage, du montage son en France. Il va intégrer ça à son univers. Il découvre le numérique de la même manière au début, avec les climats, il hésite encore. Il voit surtout que ça peut l'aider pour la direction d'acteur, pour refaire des prises. Et puis tout d'un coup, avec les trois singes, il s'aperçoit que ça peut être comme le numérique, ça peut être comme un pinceau pour un peintre.
Oui, ça on va y revenir.
Ça ne cesse de
prendre de l'ampleur.
C'est thèmes et variations, mais des variations de plus en plus énormes, quoi.
Un des thèmes principaux qu'on a de façon très explicite dans cette trilogie, et beaucoup à ce moment-là, c'est la tension qu'il y a sans cesse chez lui entre partir et revenir. C'est-à-dire que chez lui, les personnages n'ont qu'une hâte, c'est de quitter le village. Alors, c'est le personnage du jeune homme, Safet, qui s'appellera Youssouf, on va le voir dans le film suivant. Mais une fois qu'ils sont partis, ils n'ont qu'une hâte, c'est de revenir. C'est-à-dire que le cinéaste revient, il y a une déception en permanente, et sa manière de filmer la campagne, il la montre avec une beauté vraiment presque élégiaque, et se vend dans les arbres, et le scintillement de l'eau dans la rivière, mais c'est à la fois montré comme un lieu merveilleux et un lieu qui en même temps peut être d'un ennui mortel pour ceux qui sont là.
Oui, c'est une figure qui commençait déjà à être au sujet, déjà le personnage de Safet dans Casaba était déjà parti et était revenu. Je crois qu'effectivement c'est un cinéma qui a cette tension principale entre l'idée de la partance, de partir, et l'idée de l'essoufflement. De l'essoufflement consécutive à ce désir de partir. Et les personnages donc ne savent jamais en fait où ils doivent se situer. Et ce sont toujours des personnages en fait qui sont disloqués. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais au bon endroit parce que peut-être que le monde ne leur permet pas toujours d'être au bon endroit dans leur course, dans leur action. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le cosmos, peut-être sur quelque chose qui serait de l'ordre de l'ataraxie ou quelque chose qui serait d'une autre forme de sagesse, peut-être que ce sont des personnages qui ne sont pas toujours au présent des choses dans leur vie sociale. Je voulais juste aussi rebondir sur quelque chose, ce que vous parliez tout à l'heure de cet apprentissage au fur et à mesure du cinéma. Ce qui est, je crois, très beau dans Nuages de mai, c'est que de la même manière qu'il avait fait ses classes dans Casaba, il se pose tout de suite des questions de cinéma qui sont à l'œuvre dans celui-là. Et on pourrait dire que ce sont des questions déontologiques. Ce sont des questions de qu'est-ce que je peux filmer, jusqu'où je peux filmer.
Donc, c'est le plus important, est-ce que c'est le cinéma ou la vie ? Une des questions de Kiarostami aussi, d'ailleurs.
C'est ça. Et c'est évidemment la question de savoir est-ce que ce film est plus important que ce que son père veut conserver. On pense à la cerisée, enfin, à vouloir conserver ces arbres qu'un cadastre veut abattre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est évidemment l'épisode moral de l'histoire de l'enfant et de son œuf, qui est un épisode qui va en fait perdurer tout au long du film jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre. Un petit garçon doit garder un œuf
pendant 40 jours sans le casser, et on lui fera un cadeau s'il y arrive.
Voilà, il va se retrouver dans différentes situations. On pense encore à Kiarostami dans cette façon de créer des épigrammes moraux, je sais pas, des fables à l'intérieur. Sans que la morale ne nous soit jamais servie et donnée. Elle demeure totalement indécidable dans le cas de ce film.
Tarzan gibi. Neymiş gemilerde çalışıyorum. Bu arada ben sana söyleyeyim. İş yok, para yok. Sen beni dinle gel. Kafandan sileyim. O macera iş.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Nuri Bilge Ceylan. On est à Istanbul, sur les docks enneigés. Il y a un café plein de marins et il y a un jeune homme qui cherche du travail. Il cherche à s'embarquer sur un bateau. Alors, il ne s'appelle plus Safet, il s'appelle Youssouf. Il est toujours joué par le cousin de Nuri Bilge Ceylan, Mehmet Emin Tropak. Il va recevoir à Cannes, pour ce film, un prix d'interprétation masculine que malheureusement il ne pourra pas recevoir car il est mort quelques temps après le tournage. Ce prix, il le partage avec l'autre comédien, Muzaffer Özdemir, celui qui jouait le double de Nuri Bilge Ceylan dans le film précédent et qui ici joue une sorte de double, mais très dégénéré de Nuri Bilge Ceylan, puisqu'il n'est pas cinéaste, il est photographe, il gagne sa vie, mais comme le faisait Nuri Bilge Ceylan avant de devenir cinéaste, en faisant des photos publicitaires de carrelage chez lui, lui qui rêvait de faire des films comme Tarkovsky. Et c'est ce qui est très troublant dans cette trilogie, c'est que, et sans doute on pourra l'appliquer au film suivant, c'est que Nuri Bilge Ceylan, je ne sais pas si c'est votre impression, Entebbe, fait des portraits diffractés de lui-même. C'est quand il filme quatre générations de personnages dans Nuages de mai, il pourrait être chacun des personnages, celui, l'enfant qu'il a été, l'adolescent qu'il a été, l'homme qu'il est et le vieillard qu'il va devenir. Et ici, dans Ouzak, on a l'impression qu'il est à la fois le photographe aigri, celui qui a été déçu, et le jeune homme en voie de déception sur la possibilité d'un ailleurs à Istanbul.
Oui, mais moi je pense que c'est comme tous les grands écrivains ou auteurs ou dramaturges ou cinéastes. C'est que il est tous ces personnages. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il ne les juge pas. Et c'est pour ça aussi que Tchekhov est son grand maître, hein, puisque, voilà, quelle que soit votre génération, votre classe sociale, votre sexe, votre vie professionnelle, voilà, vous avez vous êtes un personnage intéressant, digne d'être dans le film. Donc, ça suffit comme justification. Et c'est pour ça que c'est aussi un si grand directeur d'acteur. Parce que tant qu'il n'est pas parvenu à cette authenticité-là, bah, il va user de stratagèmes, une actrice un peu trop théâtrale, il va la filmer de la pièce d'à côté en faisant semblant que c'est une répétition. Enfin, vous voyez, il fabrique hein, aussi. Il y a un côté presque artisanal dans cette façon de façonner son univers qui est. C'est ça qui est extraordinaire parce qu'il le fait. On a l'impression avec la nature et avec les gens tels qu'ils sont, mais c'est le fruit d'un travail immense.
C'est un film très curieux que ce Ouzak, Frédéric Mercier, parce que on pourrait avoir l'impression d'un film très contemplatif, assez tragique, mais regardez de près, c'est un film assez burlesque, en fait, parce qu'il repose sur l'opposition de contraires, et même à l'intérieur d'un appartement, c'est l'appartement d'ailleurs de Nouri Bilge-Ceylan dans lequel il tourne ce film, on aurait le plus grand mal à reconstituer, pourtant l'appartement n'est pas grand, mais à reconstituer sa géographie, parce que les deux personnes qui y habitent, les deux hôtes, celui qui accueille et celui qui est accueilli, en ont une utilisation très différente. Et l'utilisent pas au même moment et ont des espaces interdits à l'intérieur.
Oui, je suis d'accord avec cette notion de burlesque. Je crois qu'il y avait déjà un peu commencé à effleurer dans Nuages de mai et qui va encore se développer de film en film. Un burlesque contemplatif. En tout cas, un des sujets de ce film-ci, c'est l'impossibilité à deux de vivre une forme d'intimité masculine. Ce qui est un drôle
c'est
de...
une sorte de buddy movie étrange.
Oui, c'est ça.
Impossible.
Oui, c'est ça. C'est deux types qui vivent dans un appartement avec des caractères dissemblables. C'est quand même, le fondement même de la comédie, d'avoir deux caractères antagonistes comme ça, totalement différents l'un et l'autre, et qui ne peuvent pas cohabiter dans le même endroit parce que il y a un problème d'énergie, de rythme. On est déjà dans cette chose qui est importante chez lui, qui est en fait chacun est dans une bulle. Bien à soi. Et aucune de ces bulles ne peut véritablement se rencontrer. Et ça va être la douloureuse expérience du film. C'est qu'ils vivent finalement tous les deux des déceptions, l'un et l'autre. L'un au niveau de l'emploi, au niveau de ses rêves de partir ailleurs, et l'autre au niveau de ses aspirations artistiques. Ils vivent tous les deux, c'est important, je crois, dans le film, des déceptions sexuelles et sentimentales. Et ils sont tous les deux, d'ailleurs, ces personnages qui ont tellement de mal à agir se retrouvent uniquement à agir pour suivre les femmes. C'est-à-dire que le seul mouvement qu'ils ont, c'est de suivre. Et d'ailleurs, il y a un plan que je trouve très beau. C'est un moment donné où le personnage de Youssouf cherche à aller voir une femme qu'il suit depuis le début, qui est jouée par Ebru Ceylan, qui est l'épouse de Nouri Bilge-Ceylan. Et il l'observe dans un parc.
Elle n'était pas encore à l'époque, je crois. Si.
Elle n'était pas encore à l'époque. Et il se décide enfin à agir. Et au moment où il se décide à agir, à faire un pas, un homme survient à ce moment-là et il est ramené à sa position de voyeur. Et je crois que ce qu'on disait tout à l'heure sur le mouvement, l'empêchement du mouvement est totalement contenu dans ce film. Et ces personnages feront jusqu'au dernier plan que je trouve extrêmement beau, enfin, sur un banc avec une cigarette, feront l'expérience de cette impossibilité, non à communiquer, pour reprendre toujours les vieilles antiennes du modernisme, non à communiquer, mais à pouvoir, à un moment donné, partager ensemble la même expérience, en fait.
Efendim abi? Şimdi mi? Ha? Tamam. Hemen geliyorum abi. Tamam.
Biraz önce avukatı da aradım, konuştum. Zaten şoförüm olduğun için şüphelenmezler diyor. En fazla 6 ay. Taç atlasın bir sene. Çık. baktın da hiç olmazsa elinde toplu bir paran olur. Benim şu adaylık durumu olmasa senden böyle bir şey istemezdim, biliyorsun. Ama şimdi seçim arifesinde bu kaza bile olursa benim siyasi hayatım o saat biter Eyüp. Biliyorsun işte. Zaten fırsat kolu değil birader. Maaşın da devam eder. Senin olan her ay gelir alır.
Vous parliez du travail du son, Entebbe. Il est ici tout à fait extraordinaire. C'est le début des Trois Singes, le film de Nuri Bilge Ceylan en 2008. Le tout début, quasiment. Enfin, il y a une première scène avant, uniquement sonore d'ailleurs, quasiment. Donc, le coup de téléphone, eh bien, c'est un patron qui appelle son chauffeur. Il a renversé quelqu'un en voiture et il propose, contre rémunération à son chauffeur, d'endosser la faute et de partir en prison à sa place. C'est un film sans doute le plus noir, le plus sombre de Nuri Bilge Ceylan. Les trois singes, ce sont ces singes qui ne veulent ni voir, ni entendre, ni savoir ce qui s'est passé. Et c'est assez curieux d'ailleurs chez lui, un portrait très à charge en tout cas de ce personnage, parce que je ne l'ai pas dit, le patron est un homme politique, mais c'est aussi un film sur la contagion du mal, il me semble, parce qu'à partir de cet acte du début, tout va se déliter dans la famille et dans les comportements de chacun.
C'est vrai que c'est un film très charnière pour Ceylan. Je pense que c'est aussi l'un de ses films les plus narratifs. Parce que très souvent, il montre pas l'action, il préfère montrer la réaction, les conséquences, etc. Et là, c'est presque un film d'action. C'est-à-dire, il y a des rebondissements.
On pourrait être chez James Cain.
Absolument. C'est le facteur sonne toujours deux fois. Voilà. Et on sent. Alors. Vous parliez du son. Ce qui est très frappant dans ce film-là, c'est que il va travailler évidemment l'image comme un cadre, comme le cadre d'un tableau. Mais pour lui, le grand avantage du son, c'est que le son n'a pas de limite. Le cadre a une limite, mais le son n'en a pas. Donc la partie cosmique dont on parlait est beaucoup pris en charge par le son. C'est quelque chose qu'on a l'impression qu'il découvre autour de ces films-là. Peut-être, dit-il, en travaillant avec des ingénieurs du son français. Qui sont plus sophistiqués, etc. C'est quelque chose qui, évidemment, venant lui du visuel, ça ne l'avait pas frappé dans ses premiers films. Et tout d'un coup, c'est cette dimension-là.
Et il va découvrir aussi, ça il l'aura fait dans son film précédent, La caméra numérique haute définition, il l'aura découverte dans les climats, le film où il va filmer la dérédiction d'un couple avec sa femme, Ebru Ceylan, qui va être sa co-scénariste de tous ses films à partir de celui-ci. Mais effectivement, vous y faisiez allusion tout à l'heure, Entebbe, c'est un film où il agit comme peintre, c'est-à-dire qu'il va retoucher les ciels, notamment, il va créer ces ciels extrêmement noirs, extrêmement sombres, qui auront beaucoup, beaucoup frappé à l'époque. Et pour un cinéma qu'on pourrait croire naturaliste à première vue, en fait, c'est un cinéma où il y a beaucoup d'interventions ensuite qui le rend quasiment fantastique, il me semble.
C'est un film qui lorgne avec le fantastique. Vous parliez de contagion du mal. Je crois qu'effectivement, le personnage du politicien incarne le mal absolu. C'est peut-être le seul personnage chez Ceylan qui n'a aucun salut, enfin qui a aucune chance de salut. Et ça apparaît dès le premier plan. Et je crois même qu'il y a un plan avec un ventilateur qui est quasi expressionniste en contre-plongée, qui est extrêmement, qui est quasi fantastique, comme vous disiez. Enfin, oui, il est évident qu'il cherchait depuis toujours en fait cette caméra HD. Il dit qu'il avait, il cherchait quelque chose de beaucoup plus mobile, quelque chose de beaucoup plus léger pour pouvoir faire son cinéma depuis ses débuts. Il le trouve. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression que le film, à la fois, c'est son film le plus narratif. Je suis d'accord. C'est son film le plus peut-être le plus classique dans ce sens-là. Et c'est en même temps, à mon avis, quasiment le film le plus expérimental en termes d'image et de son. Ce qui se passe dans le cadre avec, vous parliez. Des contrastes, en fait, des contrastes, des jeux entre la lumière et les ombres, un jeu d'étalonnage très fort sur des gris, une palette de gris extrêmement complexe, de vert aussi également, avec toujours ce phare rouge qui revient comme ça. C'est un film qui fait un peu signe tout le temps, quoi, en fait. On a l'impression que cette énigme du monde, qui est déjà là depuis Casaba, dont on parlait tout à l'heure avec cette histoire de cosmos, ça veut dire l'idée que, à un moment donné, être au présent, c'est aussi être au présent des énigmes du monde, faire peut-être comprendre comment le monde se déplie et se déploie, soudain, il trouve un moyen graphique de le faire advenir à l'écran, si bien qu'effectivement, le cadre est toujours intéressant. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. C'est toujours intéressant à regarder dans le cadre. Il se passe toujours quelque chose qui permet sans cesse de traduire l'ambivalence morale, l'ambivalence de tous les personnages. Vous disiez tout à l'heure que cette chose-là, c'était chez Chelan, c'était l'état intérieur des personnages. Pour moi, c'est l'état intérieur, mais ce que je trouve peut-être, je crois que c'est une dimension que j'aime le plus chez lui, c'est que c'est à la fois l'état intérieur des personnages, mais c'est exactement une captation du présent des choses. Et je crois que c'est l'intérieur et autre chose. Il y a quelque chose d'atmosphérique. On habite un film de Chelan. Et on habite chacun de ses instants, on habite une atmosphère. Enfin, c'est, voilà.
Mais ça, en fait, c'est très complexe parce que quand je disais que l'univers qu'on voit à l'écran est l'émanation des personnages, comme vous disiez, le même appartement sera différent selon qu'il est filmé avec un personnage ou un autre. Mais, et d'un autre côté, et c'est un paradoxe, c'est que les gens sont en décalage constant avec l'environnement. Alors, et ces deux choses peuvent coexister dans un même film. C'est quand même assez étrange.
Et ça sera encore plus frappant dans le film suivant.
Ceset, 180 cm boyunda. Kaç yaşındadır maktul doktor?
35-40 diyebiliriz.
Değil mi? 35-40 yaşlarında. Clark Gable görünüşlü. ...80-90 kilogram tahmini ağırlıklı. Abi yazıyorsun öyle ha. Vallahi.
Savcım, Clark Gable'a benziyorsunuz biraz, biliyorsunuz değil mi?
Yani kusura bakma. Özellikle bırak, hadi. Ciddi olalım biraz, hadi. Evet, nerede kaldık? 80-90 kilogram tahmini ağırlıkta. Bıyıklı. 3-4 gün...
Mais oui, on peut rire chez Nuri Bilge Ceylan. Même les non-turcophones parmi vous auront sûrement reconnu les mots de Clark Gable. Clark Gable, c'est la comparaison qu'on fait avec un cadavre et qu'ensuite on va faire avec le procureur. Le procureur qui fait son rapport. Ce cadavre, on aura mis beaucoup de temps à le retrouver. Il était une fois en Anatolie qui commence par une très, très, très longue quête dans le désert, enfin la steppe anatolienne, à la recherche d'un cadavre qu'un meurtrier a enterré, mais se souvient plus trop où, donc ils sont tous en voiture à le chercher, et puis il y aura ensuite une très longue et belle conversation. Alors pourquoi le début est très long, Nuri Bilge Ceylan va noter dans son journal de tournage, au moment où il tourne, il était une fois en Anatolie, on est en 2011, la raison de mon insistance sur la durée de la première partie, écrit-il, vient de ma volonté de voir se former chez le spectateur le même désespoir que celui qui s'empare au fur et à mesure des personnages alors que le cadavre reste introuvable, forcer l'attention du public vers des détails qui paraissent insignifiants, plus précisément faire en sorte que l'atmosphère du film colle à la peau des spectateurs presque endormis, comme s'ils étaient capturés malgré eux dans une toile d'araignée. Alors on est à nouveau dans cet état hypnagogique dont je parlais, hein, l'état entre veille et sommeil, mais on est aussi dans une quête quasiment spirituelle dans tout ce début d'Il était une fois en Anatolie, qui va se résoudre de manière très, très étrange à la fin, Frédéric Mercier.
Oui, moi souvent à propos de ce film, je parle d'un sorte de théâtre de l'absurde, Ionesco ou Beckett, quelque chose comme ça, qui serait à ciel ouvert. Et effectivement, on part à la recherche d'un cadavre. Le fait de vous passer un extrait avec le mot de Clark Gable, moi, c'est souvent, je me dis, comment regarder ce film à l'aune d'un film plus standard, puisqu'on sait que Chelan dit toujours qu'il faut ne jamais être dans le standard. C'est que les moments de creux qu'on ne verrait pas dans un film de genre, évidemment, là il ne filme que ces moments de creux. Dire, l'intrigue, il n'y a pas d'intrigue dans Il était une fois en Anatolie. Alors
qu'on cherche... on se déplace d'un point à l'autre, on se déplace à l'écran d'un point à un autre.
Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, avec cette dimension quand même la plus absurde de toutes, qui est de rechercher un cadavre dans un paysage désertique de nuit. Je veux dire, avec à chaque fois des points de repère à échelle humaine qui permettraient de donner une sorte d'échelle à l'intérieur de ce paysage immense pour pouvoir essayer de trouver quelque chose. Oui, c'est la recherche d'un cadavre et c'est une quête, une longue quête, on va dire, banalement, je dirais, de l'obscurité de chacun, de l'obscurité de chacun des personnages, ce qui donne des dialogues, à mon avis, incroyables entre procureurs, flics et un médecin, chacun ayant, on va dire, un peu la caractéristique philosophique de son métier. Autour évidemment de ce cadavre et d'autres cadavres. Je crois que ce qui est étonnant, c'est que s'il y a un fil rouge dans ce film, il y a un autre cadavre dans ce film. Il y a une autre mort qui est la mort d'un ami du procureur, d'une amie du procureur. Et c'est cette vérité-là, c'est la vérité de cette mort-là qui devra découler de la recherche de cette autre mort.
Et pour découvrir les ténèbres que chacun porte en soi, il va falloir une lumière. Mais il y a cette scène, qui est une des plus belles scènes de cinéma qu'il m'a été donné de voir dans les 10 dernières années, allez, puisque le film date de 2011. C'est cette scène, l'électricité est coupée et une très jeune femme arrive portant une lumière. Ntebine.
Oui, elle a un plateau, elle sert du thé au personnage. Et c'est vrai qu'on a des frissons tellement c'est beau. On peut avoir ce genre d'émotion devant une toile de Vermeer. Enfin bon. Mais alors, ce qui est. En vous entendant parler, il y a une chose qui me frappait, c'est que je pense que Jelan, c'est l'anti-Hitchcock. C'est-à-dire que Hitchcock, le suspense consiste à donner plus d'informations au spectateur pour qu'ensuite le suspense rende tous les moments creux palpitants. Et Jalan, ce qu'il veut, c'est qu'on soit exactement dans la même situation que ces personnages. C'est-à-dire, on peut appeler ça de l'empathie, mais il veut pas que le spectateur soit plus intelligent. Il va découvrir le spectateur avec les personnages. Donc, à un moment donné, lorsque la beauté est suffocante à l'écran, ben, les personnages dans le film ont une émotion parce qu'ils voient la même chose que nous. Ils se mettent même à pleurer. Enfin, il y a ce côté-là de très, comment dire, c'est comme ça qu'il nous rend complices, en fait, de son cinéma.
Et je suis parfaitement d'accord avec ça et avec cette façon aussi extrêmement innovante de substituer sans cesse à un discours in, un discours off, un monologue intérieur, à un monologue décalé. Ça veut dire soudain à quelque chose qui aura été dit, mais à un autre moment de l'action en continuant à filmer le paysage et les visages paysages. Je crois que cette rencontre entre le spectateur et les impressions même vécues par les personnages se joue également, je dirais presque à un niveau littéraire ici dans ce film-ci par ce truchement des discours en fait.
Oui, parce que le dialogue est très brillant. Alors pendant longtemps on disait c'est le cinéaste du silence, des longs un quart d'heure sans dialogue au début d'un film, etc. Et en fait on s'aperçoit que la parole est toujours essentielle chez lui et la façon dont elle est dite et à qui elle est dite. Et de quelle manière, et en regardant comment, etc. Donc,
Et ça va prendre encore de l'ampleur.
Hein? Alevsin orada topla götür. Hayatta elimde tek onlar kalmıştı, onlar da senin olsun. Bende ne varsa elime götür.
Ah Nihal'cim ya, niye böyle söylüyorsun ki ya?
Al hepsini. Ne var başka? Al bunu da.
Ay, ne yapıyor? Çocuk gibisin Nihal'cim. Ne diyeyim? Bu işin önemine ne kadar sorumluluk gerektirdiğini anladığında kendin gelip teşekkür edeceksin bana. Bak göreceğiz.
Vous écoutez France Culture, plan large sur les cinéastes turcs Nuri Bilge Ceylan avec Frédéric Mercier et Entebbin, ricanement terrible que celui de cet homme dans Winter Sleep, Palme d'Or, je l'avais dit tout à l'heure, pour Nuri Bilge Ceylan en 2014, on entend le vent dans la entre les cheminées de Cappadoce. L'homme est un ancien acteur, un intellectuel, un rien aigri, comme il y en a souvent chez Nouri Bilge Ceylan. Il s'est reconverti en hôtelier dans ces hôtels troglodytes de Cappadoce. Il y règne en seigneur et maître, pour ne pas dire en tyran sur ses locataires, qu'on pourrait aussi appeler ses vassaux, mais aussi sur sa femme qu'on vient d'entendre dans cette scène d'humiliation quotidienne, et puis sur sa sœur. Voilà, c'est vraiment l'anti-héros odieux, celui qui est toujours sûr de son bon droit, qui donne des leçons de vie et de morale à tout le monde, et qui va vivre un trajet assez complexe dans ce film, Frédéric Mercier. Dans ce film où on parle beaucoup, là, pour le coup.
Oui, la figure de l'intellectuel dont on va mettre en cause l'autorité, l'autorité intellectuelle, bon, c'est quelque chose aussi qui traverse son puis Nuage de Mèche, je veux dire, c'est
on déjà dans Le Poirier Sauvage aussi,
jusqu'au Poirier Sauvage, c'est une figure, et effectivement c'est un personnage qui se pose une question morale: est-ce que en fait il doit ou pas accepter d'avoir été malmené par ses vassaux, comme vous disiez, parce qu'un petit garçon lui a jeté un caillou contre sa vitre, puisqu'il demande des impôts très forts, enfin il demande des loyers très forts que ses parents ne peuvent pas payer. Il va se poser cette question, et autour de cette question, il y a différents personnages, ces femmes qui vont venir s'interposer, et donc le personnage va suivre effectivement un itinéraire pour essayer de comprendre quelle est finalement sa place et ce qu'il doit faire. Mais ce qui est important, c'est que c'est un personnage qui va comprendre, peut-être ou pas, parce que je crois que ça reste toujours indécidable dans ce film dont les dialogues sont extrêmement riches. Est-ce qu'il est aussi vertueux qu'il voudrait l'être? Est-ce qu'il est aussi vertueux que ce qu'il prône, puisqu'il fait tout le temps la morale, comme vous le disiez? Et ce que je trouve assez extraordinaire dans ce film, c'est à quel point ce cinéaste, qui s'est toujours à la fois intéressé à la parole et au silence, soudain problématise ce que c'est que la parole, problématise ce que c'est que le discours. J'ai rarement vu un film où, soudain, à force d'être énoncé, la parole perd, dans le cadre encore, on est au cinéma, perd de sa puissance. On sent une sorte de déflagration de la parole à mesure qu'elle est prononcée dans le film. Et ce sera toute la question du dernier plan du film en voix off, de savoir qu'est-ce qui reste encore comme poids et comme valeur effective à cette parole, dès lors qu'elle a toujours servi, même quand elle pensait servir le bien, quand elle n'a fait que asservir et humilier les autres.
Mais alors, ce qui est aussi très intéressant dans ce film, c'est la parole féminine. C'est et alors, c'est très étrange, parce que en écoutant votre extrait, j'ai revu récemment Scène de la vie conjugale de Bergman, et j'ai eu l'impression d'entendre du suédois tout d'un coup. Enfin, tellement dans les intonations, la manière de s'agresser, et puis l'homme qui baisse le ton pour pouvoir mieux reprendre après le fil. Enfin, c'est je sais que c'est l'une des influences avérées, enfin et revendiquées de Ceylan, mais il y a une chose aussi qui m'intéresse dans ce film, c'est que on a l'impression qu'il découvre en fait une sorte de classicisme qu'il n'avait pas, enfin jusqu'à présent il a été souvent taxé de radical dans ses partis pris, etc. Puis là, il s'aperçoit que c'est intéressant de tourner en studio, que c'est intéressant de faire un chant contre chant, parce que on a l'écoute et on a la parole. Enfin, et tout ça pour donner le premier plan à ces personnages et à ce qu'ils disent.
Ça, c'est un classicisme qui passe aussi par le rapport de l'homme au paysage. Enfin, oui. Ça traverse là encore toute l'œuvre de Nouri Bilge Ceylan. Vous parliez de paysage et de visage. Il va évidemment filmer les visages comme des paysages, mais les paysages comme des visages aussi. Il va parler de l'influence pour ce film de Caspar David Friedrich. Je le cite là encore. Il va dire: dans ces toiles magnifiques, de minuscules personnages perdus dans le décor modifient la nature de notre regard. On dit que je filme des paysages, c'est vrai, alors que je fais des portraits dans la nature. Frédéric Mercier.
J'avais même pensé forcément au romantisme de Ceylan. Ce serait difficile de vous répondre comme ça sans y avoir trop réfléchi. Mais dans ce film notamment, mais comme dans la plupart de ses films, il y a effectivement le rapport de l'homme à son environnement, et là, à cet environnement qui est assez spectaculaire quand même, ces troglodytes en Cappadoce qui sont des maisons qui... des sortes de d'architecture à l'intérieur même de la montagne. Et il y a effectivement le rapport de l'homme à son environnement. C'est le film où quelqu'un choisit à un moment donné de se replier totalement, qui a fait le choix du repli par rapport au monde. Je crois que c'est ça la particularité de ce film par rapport au mouvement des autres qui avaient choisi de partir. Et il y a encore des personnages qui lui évoquent constamment l'idée de pouvoir s'en aller. Là, c'est quelqu'un qui a fait le choix de l'isolement et qui en fait paiera de son isolement, parce que même son intellect, même sa réflexion, même son ambition, son essoufflement ne peut être satisfait dans cet isolement romantique. Ça veut dire que l'élévation romantique ne peut pas suffire à ce personnage, à ce personnage qui a besoin du contact avec les autres une fois de plus, enfin qui a besoin d'autre chose en fait. En tout cas,
cinéphiles d'entre vous ont certainement noté que cette sonate de Schubert, ici interprétée par Alfred Brendel dans la bande originale de Wintersleep, où elle revient régulièrement entre chaque partie, mais c'était aussi la voix de l'âne martyrisé dans Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Et évidemment, ce n'est sans doute pas un hasard quand on connaît l'admiration de Nouri Bilgeç-Ceylan pour Bresson. L'intégrale en Blu-ray des films de Nouri Bilgeç-Ceylan, mais aussi en DVD et Blu-ray Le Poirier Sauvage, tout seul, son dernier film en date, c'est édité par Memento Film, distributeur historique de ces films en France. Vous en avez co-signé les bonus, Frédéric Mercier avec Pierre Murat, qu'on salue également. En salle, vous pouvez voir et revoir depuis mercredi dernier beaucoup de classiques, trois grands classiques en copie neuve, Les Raisins de la Colère de John Ford, c'est évidemment sa magnifique évocation de l'exode rural aux États-Unis après la crise de 1929. Il y a aussi Haute Pègre, beaucoup plus drôle, un des sommets de la Lubitsch Touch, et puis La Passante du Sans-Souci de Jacques Rouffio, qui sort en salle en version restaurée, le dernier film de Romy Schneider, c'était en 1982. On salue également aujourd'hui dans Plan Large la mémoire d'une figure légendaire du cinéma indépendant américain, voire carrément underground, Jonas Mekas, disparu mercredi à l'âge vénérable de 96 ans. Il était diariste cinématographique, puisque son journal filmé d'une grande beauté a donné lieu à de nombreux films comme Walden, son plus connu en 1969. Jonas Mekas, compagnon de route d'Andy Warhol et de toute l'avant-garde artistique américaine. On lui doit bien sûr la fondation avec Stan Brakhage et Peter Kubelka, entre autres, de l'anthologie Film Archives en 1970, institution qu'il a dirigée jusqu'à sa mort et qui a permis aux spectateurs new-yorkais de découvrir qu'il existait un autre cinéma en dehors de l'industrie hollywoodienne. À présent, dans Plan Large sur France Culture, il est temps de prendre une petite leçon d'élégance et de savoir-vivre. Thank you.
Il brasato era fatto con vino di Comodo, eh? E non con il Gattinara. Glielo dica al cuoco.
Va bene, ragionier Paronzini. Glielo dirò senz'altro. Buona domenica a lei, ragionier Paronzini.
De l'importance de se rincer la bouche avec son verre de vin, leçon donnée par Ugo Tognazzi, alias Emerenziano Paronzini, fonctionnaire de l'administration fiscale et ancien militaire. Venez donc prendre le café chez nous, puisque c'est ce film, ouvre mercredi prochain la rétrospective que la Cinémathèque française consacre jusqu'au 25 février au cinéaste italien Alberto Lattuada. Le film sort aussi en salle et en DVD le même jour, dans une version restaurée. C'est un cinéaste assez difficile à cerner, Alberto Lattuada Entebbe, il est complètement atypique, inclassable, éclectique. Il est passionné, d'ailleurs, comme Nouri Bilgeçaynan, de littérature russe. Il va adapter Tchekhov, mais aussi Gogol, Pushkin, Bulgakov. Et sa filmographie, qui est allée sur plus de 50 ans, hein, depuis la chute du fascisme jusqu'à l'arrivée de Berlusconi, finalement, elle a touché à peu près à tous les genres du cinéma italien, avec peut-être une constante, Entebbe, c'est une grande obsession, en tout cas une forte dimension érotique.
Oui, c'est vrai que, mais qui fait aussi partie d'une tradition du cinéma italien. Et ce qui est extraordinaire, mais vous venez de le souligner, c'est que sa carrière se confond avec un demi-siècle de cinéma italien dans toutes ses composantes, en fait. Néo-réaliste au début, il a présidé au début de Fellini, puisqu'ils ont co-réalisé le premier film de Fellini, Les Feux du Musical. Des films bien étiqueté néo-réaliste. Ensuite, la comédie italienne dans ce qu'elle a de meilleur. Entre-temps, quelques coproductions, parfois un gros budget de films historiques. Et puis, des films coquins, entre guillemets, avec des filles déshabillées, des scènes érotiques et moustillantes. Et toujours, alors, il y a deux choses qui sont constantes chez Lattuada. C'est d'une part un sens de la satire sociale, ou de la critique sociale, c'est-à-dire parfois c'est drôle, c'est grotesque, comme dans l'extrait qu'on vient de voir, qui est une sorte de portrait de la médiocrité absolue, ce que Tognazzi faisait avec génie d'ailleurs. Donc il y a ça, il y a la satire sociale, teintée d'érotisme, parce que l'érotisme, justement, dans sa subversion, arrive à faire exploser des choses du carcan social. Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas autant chez d'autres grands, par exemple, cinéastes de la comédie italienne, c'est-à-dire un sens visuel extrêmement élaboré. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, même dans Venez prendre le café chez nous, il y a des séquences en clair-obscur, la lumière est extrêmement soignée, on a un générique qui est à la fois parodique, fantastique, très brillamment réalisé. Il y a cette virtuosité formelle chez Lattuada, et il y a également une chose qu'il faut lui reconnaître et qui est l'une des vertus de son cinéma, c'est un grand cinéaste populaire. C'est-à-dire qu'il aime les genres populaires. Et il a fait des mélodrames extraordinaires, hein, avec Silvana Mangano qui est un mélo qui dépasse de loin ce qu'elle faisait dans Riamer, enfin s'appelle Anna. Le meilleur rôle de Martine Carole, qui est la spiaggia, la pensionnaire, où elle joue le rôle d'une prostituée qui doit faire face à l'hypocrisie sociale. Enfin, il y a ça chez Lattuada. Et là, venez donc prendre le café chez nous. Est une sorte de, voilà, c'est la quintessence de son cinéma. Il y a tout.
Alors, il faut raconter un peu de quoi il s'agit. On est dans une petite ville au bord du lac Majeur. Il y a un homme riche, taxidermiste à ses heures perdues, vient de mourir en laissant trois filles qui le vénéraient manifestement. Et tout le village veut mettre le grappin sur l'héritage. Et en particulier, donc, ce fonctionnaire ancien militaire joué par Ugo Tognazzi, qui a un but dans la vie, parce qu'il a déjà un certain âge, c'est de chercher les 3 C. Alors, qu'est-ce que c'est que les 3 C? C'est carezze, caldo, comodo. Les caresses, la chaleur et le confort.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un film émoustillant ou érotique, les trois filles seraient de jeunes femmes plantureuses, comme on en voit plein dans le cinéma italien des années 50, 60, 70. Et là, ces trois vieilles filles, donc, mais caricaturales, En plus, c'est d'après un roman, c'est très bien raconté par Jean Gilly dans le livret qui accompagne le DVD. C'est un roman qui a été écrit, c'était une satire du fascisme pendant la période mussolinienne, et qu'il transpose sans le moindre problème dans les années 70, et qui pourrait, à mon avis, se transposer exactement de la même façon chez Berlusconi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sent la libération progressive de ces trois personnes disgracieuses face à ce bourgeois épouvantablement médiocre, ridicule.
Vide. Il va beaucoup dire que c'est un homme vide.
Oui. C'est un homme vide qui va remplir la vie, pas que la vie, de ces trois femmes plus très jeunes. Et tout ce monde-là va être dynamité. Jusqu'à une fin qui rappelle un peu Monsieur Ripoix ou
le plaisir, ça rappelle
oui,
un peu
ou le plaisir bien sûr et entre temps on serait passé par une gamme d'émotions parce que c'est une comédie où on rit mais c'est surtout très grinçant, enfin je veux dire on rit parce que Tony Adie est génial, mais il y a des moments de profond malaise quand même, puisque on a des crises, on s'insulte d'ailleurs. La Toadal lui-même joue le rôle du médecin qui vient faire le diagnostic de ce monde, mais avec des phrases très laconiques, genre bon, un peu de repos, puis il dit pas grand-chose d'autre. Hein. Et on sent comme ça qu'il observe avec délectation cette espèce de société à la fois pourrie, mais où peut-être qu'à un moment donné, le plaisir des sens va arriver à faire bouger les choses.
Il y a qu'un sens du détail aussi chez Léa Touada. Il y a un goût du gros plan grotesque, mais aussi l'obsession érotique ici se joue par des détails fétichistes. C'est-à-dire qu'il va trouver chez ces trois femmes l'idéal fétichiste qui va être chez l'une les cheveux, chez l'autre les mains et chez la troisième les jambes.
Oui, il découpe comme ça par petits... Et en contrepoint de ça, il écrit une chanson qui est « Je t'aime tout entière ». Donc, ou tout entier. C'est quelqu'un du détail. C'est un entomologiste, la Toada.
La chanson, la voilà.
Mi piaci tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, mi piaci tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta. Chi l'avrebbe detto che un amore così, giunto fuori tempo massimo, ci portasse via fortissimo. Mi piaci tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta. Mi piaci tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, sembra vero, sei con me, hai capito, piace a me. Tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta.
Merci Entebbe. Tutta tutta Paris Giganti, musique Fred Bongusto, parole Alberto Latuada, c'est en salle et en DVD. Venez donc prendre le café chez nous à partir de mercredi prochain, jour où s'ouvre à la Cinémathèque française la rétrospective Alberto Latuada jusqu'au 25 février. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, en train de danser derrière la vitre de la cabine de son Jean-Frédérics, l'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, plan large sur Clint Eastwood à l'occasion de la sortie mercredi dernier de son dernier autoportrait, La Mule. Nous serons en compagnie d'Andrea Grunert, autrice du dictionnaire Clint Eastwood chez Vendémiaire, et de Bernard Benoliel qui a signé une monographie sur l'acteur et cinéaste au Cahier du cinéma. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard. Yeah.